الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا انتي عيني حبك من قلبي يا انتي عيني بنت الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا انتي عيني حبك من قلبي يا انتي عيني. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, l'heure de notre émission « Une heure en Palestine », programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur Radio Galère 88.4. Vous pouvez aussi retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio Galère. Donc cette émission est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Aujourd'hui, Palestine 13, groupe local de la FPS, et BDS Provence, groupe local de la campagne BDS. France. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons passer en revue un certain nombre d'articles que l'on a trouvés dans la presse. On va parler aussi des prisonniers palestiniens, parce que c'est un gros problème là-bas. Et pour commencer, quelques petites annonces que vous trouverez sur le site de Palestine 13. Donc ça commence avec aujourd'hui. Non, c'était hier, pardon, excusez-moi. Donc, c'est, voilà, samedi 9, le 9, c'est vendredi, pardon. La Palestine au Primed, Festival de la Méditerranée en images. Donc, c'était un petit film qui est passé sur Arte, je crois, et qui parlait d'enfants qui avaient été tués sur une maison de Gaza. Et donc le nom d'une entreprise française apparaissait sur un morceau de métal qui venait d'une des bombes. Et donc voilà, vous pourrez regarder ça, sachant que de toute façon, la façon dont le petit morceau de bombe a été stocké empêche toute enquête judiciaire et autres parce que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Mais bon, ça permet de savoir quand même que la France participe aux guerres à Gaza. Hein.
Mais le film qui relate cette histoire a été produit par une entreprise de production marseillaise qui s'intitule « Les tambours de soie ».
D'accord. Merci, voilà, Bernard.
Ça veut dire que non, mais ça veut dire que oui. Moi je les avais contactés et que la copie est disponible au cas où il y aurait à débattre autour de cette question.
D'accord.
Chez nous.
Ensuite, il y a un certain nombre de manifestations au niveau pour vendre des produits de Palestine. Donc c'est Philippe Audou qui, avec son voilier, le gladiateur de la paix, a initié la route du Za'atar, le Za'atar étant un mélange d'épices palestiniennes. Et donc il est allé en Corse, à l'île d'Elbe, en Sardaigne, etc. Et chaque fois qu'il accoste, il ramène des produits, il vend des produits. Donc il a des produits palestiniens. Il sera à la santé, c'est la plage de l'Estac, au bout de l'Estac, le 11 décembre. Le 14 décembre, il sera au petit marché des Calanques, traverse de Carthage de 9h à 13h. Il y sera à nouveau, toujours au petit marché des Calanques, avec des produits 100% palestiniens. Voilà, donc allez soutenir les Palestiniens en achetant des produits qui viennent de chez eux, et n'achetez pas par contre en cette période de Noël toutes les dates Medjoul qui sont étiquetées Israël parce que ça ne vient pas d'Israël, ça vient de territoires qui ont été volés aux Palestiniens. Et le 14-12 donc, One More Jump d'Emmanuel Gérosa passe au Cinétoile à Digne. Donc si vous voulez y aller. Voilà pour ce qui se passe en ce moment du côté de Marseille. Alors, petite info, je vous en reparlerai peut-être d'ici la fin de l'émission si il nous reste du temps. Je viens de lire la toile carcérale qui a été écrite par Stéphanie Latte-Abdallah et qui parle de l'enfermement en Palestine. Donc, Toile carcérale, elle explique bien pourquoi elle a utilisé ce titre. C'est toile au sens de piège. Les Palestiniens sont complètement pris dans une nasse carcérale. Qu'ils soient dedans ou dehors, ils ont toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et si on parle des prisons israéliennes, donc les gens de Gaza sont peu nombreux dans les prisons israéliennes actuellement parce qu'on n'y trouve que ceux qui traversent la frontière ou parfois certains qui sont capturés par des petites incursions de l'armée à Gaza, dans les territoires de Gaza. Mais ça reste de toute façon Gaza un lieu d'enfermement. On parle de prisons à ciel ouvert, ils sont enfermés, il n'y a pas d'avion. Sinon, les avions, les F, je ne sais pas combien, israéliens, les drones, etc., qui les surveillent. Il n'y a pas de possibilité de s'enfuir par la mer parce qu'il y a la marine israélienne qui veille et qui tire sur les pêcheurs quand ils s'éloignent trop de la côte.
Et que les zones de pêche sont réduites chaque année un peu plus.
Et, oui, tout à fait. Et tout autour de la bande de Gaza, donc, il y a un mur que j'ai vu dans la presse ces derniers jours que Israël annonce qu'il a terminé le mur. Mur au sens enfermement des Gazaouis. Et Israël est aidé en cela par l'Égypte qui a une petite frontière avec Gaza. Donc on reviendra sur les prisons peut-être tout à l'heure. En attendant, dans la presse, donc, j'ai trouvé un article sur Chronique de Palestine, un article qui s'intitule « Tester au combat », qui parle du florissant commerce de guerre d'Israël avec le monde, mais surtout avec l'Europe. Et donc l'Europe, en fait, partage de plus en plus l'approche raciste d'Israël en matière de sécurité des frontières. Donc on va adopter toutes les technologies meurtrières de sécurité, mais aussi donc de meurtrières, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui meurent, chez nous un peu moins, mais bon, on utilise quand même le même type de technologie. Il y a eu en décembre 2018 une conférence intergouvernementale qui s'est tenue à Marrakech, au Maroc. Et en fait, les dirigeants du monde entier s'étaient réunis pour parler des migrations mondiales. 150 nations ont signé un accord du pacte mondial pour les migrations, demandant la mise en œuvre de politiques plus humaines pour assurer des migrations sûres, ordonnées et régulières. Bon, si vous suivez l'actualité, vous savez qu'on y est loin d'y être.
Et surtout que Frontex est aussi partenaire.
Voilà.
Ça, là, c'est...
Et donc, en fait, la conférence et l'accord n'ont fait que mettre en lumière le double langage et l'hypocrisie de l'Occident, car ce n'est pas du tout la sécurité des migrants et des réfugiés qui viennent vers nous, qui préoccupent les pays européens et les États-Unis, mais c'est juste la sécurité des frontières. Et dans tous les cas, Israël, avec ses politiques de sécurité militarisées, sert de modèle et fournit l'essentiel des technologies. On n'a pas beaucoup entendu l'Europe critiquer Israël pour l'utilisation d'une force disproportionnée contre les Palestiniens, contre le siège dévastateur de Gaza, qui dure depuis 12 ans. L'Europe devient un des marchés pour les technologies de guerre et de sécurité. Les mêmes qui ont été testées et utilisées contre les Palestiniens, les migrants et les réfugiés qui tentent d'approcher les frontières israéliennes. Il y a beaucoup de migrants qui viennent d'Afrique qui essaient de passer là. Et en fait, il y a le même racisme en Israël et chez nous vis-à-vis de tous ces migrants, hein. Et en fait, ce discours se retrouve au sein de l'extrême droite européenne, mais pas que, parce que on voit bien en France, le Parti Les Républicains, qu'a priori, on ne devrait pas taxer d'extrême droite, il adopte exactement le même langage. Et on voit la même chose en Italie avec Salvini, qui est invité régulièrement en Israël, etc.
Oui, mais on voit la même chose aussi avec la Pologne. On voit la même chose avec, ça m'a étonné, avec les États, la Lituanie, l'Estonie, où le renvoi, le renvoi des migrants est systématique. Et j'ai été stupéfait de voir que dans un plan, dans une séquence, était montrée l'entrée de ces migrants avec leurs enfants, un bébé, et le plan suivant, c'était le retour des mêmes, lâchés dans la neige, sans aucune aide, sans rien, avec une maman qui avait un bébé sur, son bébé sur les bras. Quand on en arrive là, c'est très inquiétant.
Donc voilà, la marque israélienne est particulièrement populaire car sa technologie est étiquetée, testée au combat. En effet, ils ont eu vraiment l'occasion de tester toutes les armes dont qu'ils utilisent contre des civils palestiniens. Donc ça, c'est... tu parlais de Frontex tout à l'heure. Frontex a passé un contrat avec Israel Aircraft Industry pour l'utilisation d'un système d'avions pilotés à distance. Donc dans le cadre de la surveillance des côtes. Et ça a été également utilisé lors de l'assaut israélien contre Gaza en 2014. Voilà. Donc on comprend mieux pourquoi à partir de là... autre article alors trouvé dans Le Figaro, la France et Israël veulent mettre fin à leur brouille. Alors brouille, il faut le mettre entre guillemets, hein, parce que Emmanuel Macron signifie la fin officielle de la brouille avec Israël en recevant Yair Lapid, hein, c'est le ministre des Affaires étrangères israélien numéro 2 du gouvernement. En fait, la fâcherie, elle était simplement due à l'affaire Pegasus, logiciel espion vendu par NSO, société israélienne, avec l'aval, bien entendu, du gouvernement israélien, qui a permis de placer sous écoute l'un des téléphones portables de Macron. Alors après, dans tout le monde, dans le monde entier, il y a eu beaucoup d'affaires à propos de ce logiciel Pegasus. Et j'ai vu dernièrement que les USA avaient mis des sanctions contre NSO, la firme qui fabrique Pegasus. On ne sait pas jusqu'où ça ira, mais voilà.
Oui, mais sur la surveillance elle-même, les gens comme Macron et d'autres, ils ne sont pas très ennuyés parce qu'au fond, ils savent que leurs services à eux font la même chose.
Oui.
Donc comme tout le monde surveille tout le monde, au fond, la technologie est à la portée de tous.
Je ne sais pas, dans ce cas-là, bon, je sais, peut-être il existe d'autres systèmes qui font la même chose, mais a priori, il semblerait que Pegasus ait vraiment passé un cap et au niveau technologique.
Parce qu'il s'agissait de son portable et de son téléphone personnel.
Non, mais il semble que ça soit une technologie vraiment très différente. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont capables de faire la même chose, parce que en fait il n'y a pas besoin que l'utilisateur fasse une action ou quoi que ce soit. C'est vraiment après bon les problèmes technologiques. Bon là Macron était vexé, mais de toute façon il n'a pas tardé. Ça a duré que 4 mois. Il n'a pas tardé à renouer des liens avec Israël et pas que avec Israël, avec aussi le MBS.
Dont on va parler.
Dont tu vas nous parler.
Voilà. Alors MBS, le fameux prince héritier saoudien, était mis au banc des nations depuis l'assassinat de Jamal Khashoggi à l'ambassade ou au consulat saoudien en Turquie. Voilà, alors Emmanuel Macron n'est pas un chef d'État comme les autres. Non à cause de ses dons exceptionnels, comme il semble parfois le penser, mais en raison de son aptitude à faire des choix que la raison politique, la décence ou l'éthique incitent à juger discutables, voire honteux. Alors que depuis la sortie de scène de Donald Trump, les dirigeants occidentaux jugeaient le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed Ben Salman, alias MBS, infréquentable en raison de sa responsabilité dans l'assassinat du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi, le président français a accepté, lors de sa tournée « commerciale » dans le Golfe, de le rencontrer et de partager ce samedi un déjeuner avec lui à Jeddah. Participant ainsi, selon la formule d'Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, à la réhabilitation d'un prince tueur. Lorsqu'on sait que, malgré trois quarts de siècle de relations spéciales entre le royaume wahhabite et les États-Unis, le président Biden a décidé de ne pas adresser la parole au prince, de le déclarer persona non grata sur le sol américain et de tenir son père, le vieux roi Salman, pourtant affaibli et éloigné des leviers du pouvoir, pour seul interlocuteur, on mesure, le caractère diplomatiquement choquant et affligeant de cette initiative du président français. Car depuis l'enquête conduite par Agnès Callamard, lorsqu'elle était chargée du rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, et surtout depuis le rapport de la CIA que Donald Trump avait fait classer secret, mais que son successeur a décidé de rendre public en février 2021, aucun doute n'est permis, c'est bien MBS qui a coordonné l'exécution de Jamal Khashoggi dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre 2018, puis le démembrement de son cadavre au moyen d'une scie de boucher. La France cautionne par ses fournitures de matériel militaire et son partenariat commercial et diplomatique de régimes qui violent quotidiennement les droits humains.
Voilà, tout à l'heure, je parlais de la France qui participe à la guerre de Gaza. Elle participe aussi à la guerre au Yémen, donc avec les Émirats arabes unis, à qui on vient de vendre des rafales pour qu'ils soient encore plus efficaces contre les Houthis. Donc MBS, donc on lui avait donné il y a quelque temps la Légion d'honneur. Il avait été décoré par Macron. Je ne sais plus quand, il était venu en France il n'y a pas très longtemps.
Non, mais ce n'est pas lui qui a reçu la Légion d'honneur.
Si, il l'a eu aussi. D'Égypte, mais MBS aussi, il a été décoré. Donc voilà la France, comment elle se comporte. Alors c'est bien beau d'avoir fait la déclaration des droits de l'homme, mais maintenant il s'agirait peut-être de l'appliquer, effectivement. Hein.
Mais tu sais, cette émission qui s'appelle Complément d'enquête sur France Télévisions a montré la semaine dernière un document absolument épouvantable, à savoir que l'armée française vend des mirages, mais en même temps elle signale les installations de migrants entre guillemets parce que c'est de terroristes entre guillemets.
Ça, c'est avec l'Égypte.
La frontière, oui, avec l'Égypte, entre la Libye et l'Égypte. Elle donne les renseignements et un quart d'heure après, les gens qui sont là sont morts.
Voilà. Alors qu'il les désigne comme terroristes, alors que c'est des trafiquants.
Oui, c'est des trafiquants.
C'est des civils. Quoi.
C'est des civils qui trafiquent, qui font leur petit business. Voilà. Mais c'est l'armée française qui donne la position et c'est l'armée égyptienne qui bombarde et tue les gens qui sont là.
Elle participe.
Voilà, je crois que, je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'est plusieurs milliers quand même, qui ont été tués grâce aux renseignements de l'armée française.
On va passer un petit morceau de musique, là, Chant de joie de Gaza par Haider Aid. Donc, dès qu'un cessez-le-feu a été déclaré, les Palestiniens, malgré le lourd tribut payé en sang, sont descendus dans la rue pour exprimer leur fierté de leur victoire. D'où la joie, toute relative, mais bon, après la défaite d'Israël aux mains de ceux qui sont morts au combat. Donc, Haider Aid.
عد النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر عد النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر وبلدنا عالترعاب تغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها وبلدنا عالترعاب تغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين أبو الغناوي المجروحين أبو الغناوي المجروحين يقدر ينسيها الصباح أبو ضحكة بترش الحنين أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعدي في الدور ويغني قدام كل دار
Bien, on va continuer avec un petit article qui a été, que j'ai récupéré de Mediapart et qui s'intitule « Israël, Bennett », donc c'est le nouveau Premier ministre israélien, « c'est Netanyahou, empire ». Donc le ministre de la Défense israélien a confirmé que le gouvernement de Naftali Bennett, loin d'incarner le changement annoncé, poursuit et aggrave la politique de Benjamin Netanyahou. Une des premières choses qu'il a faites, c'est de désigner 6 ONG de la société civile palestinienne comme organisation terroriste. Donc, voilà, sachant qu'aujourd'hui, les ONG, ce sont les seuls soutiens de la population, parce que s'ils comptent sur le soutien de l'autorité palestinienne, ils sont plutôt mal barrés. L'autorité palestinienne, son seul rôle actuel consiste à assurer la sécurité d'Israël. Et en fait, on pensait que, compte tenu de sa fortune, il a vendu des entreprises à des Américains, Bennett semblait à l'abri de la corruption. Dans le gouvernement qu'il a constitué, il y avait des représentants de la gauche sioniste, le Meretz et le Parti travailliste. Il y avait un centriste laïque, Yair Lapid, qui est ministre des Affaires étrangères et qui sera Premier ministre en août 2023, en remplacement de Bennett. Il y a un ministre islamiste même. Et en fait, c'est un autre Netanyahou, peut-être même un Netanyahou empire, qui se révèle depuis 4 mois. Parmi les décisions qu'il a prises ces derniers temps, il a délivré 15 000 permis de travail en Israël à des Palestiniens de Cisjordanie. Il a porté de 7 000 à 10 000 le nombre de commerçants de la bande de Gaza admis à entrer à Israël. Et il a promis d'alléger et d'accélérer les contrôles au checkpoint d'accès à Israël, où il y a un engorgement à cause de toutes les gens qui veulent aller en Israël. Ces gestes de bonne volonté, entre guillemets, sont a priori, c'est l'annonce qui est faite en tout cas, pour aider l'économie palestinienne à sortir du marasme, alléger le fardeau de l'occupation, exploitent la vulnérabilité actuelle de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas, et également la démobilisation de la population. en fait, ces gestes de bonne volonté, aider l'économie palestinienne à sortir du marasme. Mais pourquoi elle est dans le marasme? C'est quand même bien à cause d'Israël. Alléger le fardeau de l'occupation. L'occupation, c'est qui? C'est Israël. Donc dire on va alléger les inconvénients d'Israël pour les Palestiniens, c'est bien beau. Il faudrait carrément supprimer l'occupation, supprimer donc le contrôle de l'économie palestinienne également.
Et oui, parce que s'ils veulent aller en Israël, c'est oui. Parce que c'est le seul endroit où ils sont censés pouvoir trouver un travail.
Un travail,
donc,
un travail.
Donc, avec les épreuves des checkpoints tous les matins, qui sont des images d'épouvante, quand même, il faut le dire. Hein. Mais même ça, ça n'émeut personne. De voir que, comme dans une boîte à sardines, les Palestiniens sont contraints d'attendre l'ouverture du checkpoint pour aller travailler, hein, pas pour aller... Bon. Et puis il y a aussi les services publics, où j'imagine que les services hospitaliers...
C'est pas Israël.
Oui, mais il faut quand même aller...
Il faut y aller, oui.
Il faut y aller à Jérusalem. Donc, voilà, ils ne veulent pas y aller. Ils sont contraints d'y aller parce que l'économie palestinienne, comme tu le dis, n'a jamais été encouragée, elle est plutôt massacrée.
Donc, en fait, ces annonces sont faites aussi pour ouvrir le marché de la main-d'œuvre. Bon marché, c'est-à-dire ce sont des gens qu'on va pas payer bien cher, à l'industrie israélienne de la construction, qui parle de recruter jusqu'à 80 000 travailleurs palestiniens pour répondre à l'explosion du marché du logement. Marché du logement, donc à cause de la colonisation. Mais en fait, rien ne change dans les rapports entre occupants colonisateurs et occupés. Donc, il y a un rapport des Nations Unies daté du 22 octobre 2021 qui raconte que, en 2021, justement, l'armée israélienne a tué 331 Palestiniens, en a blessé plus de 15 000. Près de 700 constructions palestiniennes ont été détruites. Ils détruisent en fait des gens en disant « vous n'avez pas demandé de permis de construire, donc c'est illégal, donc on détruit hein. ». 389 attaques de Palestiniens par des colons ont été recensées. Il faut savoir que l'armée israélienne, qui est déjà bien intégrée avec les colonies, hein, en fait, elle a pour consigne de ne surtout pas empêcher les colons de faire quoi que ce soit. Ils ont tous les droits. Et si jamais il y a des problèmes entre Palestiniens et colons, qui est-ce qui va se faire arrêter? C'est les Palestiniens, bien entendu.
Et comme disent tous les gouvernements français, Israël a bien le droit de se défendre.
De se défendre. Donc, 8000 arbres fruitiers appartenant à des Palestiniens ont été abattus, découpés ou brûlés.
Oui, là c'est également dramatique.
Oui,
les arbres fruitiers, ça peut être aussi des oliviers, qui sont quelquefois...
millénaires.
Voilà, on peut le dire. Et là, il n'y a pas de répit dans ce système-là. Mmh. On enlève, on déracine et on scie les oliviers millénaires.
C'est en fait le pain, c'est le travail des paysans palestiniens. Donc la stratégie de colonisation non plus, elle change pas. Hein. Entre 2009 et 2021, la population des colons est passée de 480 000 à 700 000 personnes. Sur ce point aussi, Bennett semble résolu à se placer dans la même lignée que son prédécesseur. Hein. Parce que le ministre israélien de la construction, Zev Elkin, a annoncé un projet de construction de 1355 logements dans 7 colonies de Cisjordanie et le doublement d'ici à 2026 de la population de colons de la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain, donc, c'est des terres agricoles extraordinaires dans lesquelles, justement, on produit les dattes medjoul.
À ne pas acheter.
Voilà, en faisant bien attention qu'elles soient étiquetées Palestine et non pas Israël. Et les ONG spécialisées, qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes, ont attiré l'attention de l'opinion publique et de la communauté internationale. Elles collectent des témoignages, elles établissent des faits, elles rédigent et publient des rapports documentés en jouant, à chaque fois que nécessaire, leur rôle de lanceur d'alerte. Et c'est pour ça que ces ONG, qui jouent un rôle capital au moment où l'autorité palestinienne, discréditée par son impotence, est dépourvue de légitimité démocratique, il n'y a plus d'élections depuis 2005, donc c'est totalement cette autorité palestinienne est totalement inaudible et seules les ONG peuvent encore apporter une aide à la société palestinienne. Voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en attendant, Bernard va nous parler des défenseurs des droits palestiniens qui sont espionnés, où l'on reparle de Pegasus, justement.
Voilà, alors... Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a annoncé la désignation de 6 principales organisations de la société civile palestinienne dans le territoire occupé comme étant des organisations terroristes. Alors ça, c'est évidemment facile quand on n'aime pas ce qui se fait sur le terrain. C'est pratiqué en Russie, ce style. C'est pratiqué au Nicaragua par des gens qui sont plutôt des autoritaires. Alors, les ONG sont classées organisations terroristes en vertu d'une loi antiterroriste israélienne de 2016. Voilà. Cette décision vise non seulement à criminaliser ces organisations, mais aussi à supprimer leur financement et les autres formes de soutien qu'elles reçoivent de la part de partenaires et de soutien internationaux. Alors ça aussi, c'est une pratique très courante. Poutine l'a réalisé. Si vous avez des soutiens internationaux, ça veut dire que vous êtes vendu à l'étranger. Donc vous devenez suspect, et en Israël, pour Israël, le terme suspect, c'est terroriste. Alors, Frontline Defenders condamne les efforts d'Israël pour criminaliser le soutien aux défenseurs des droits humains respectés et de longue date et à leur organisation, comme il l'a fait lorsque d'autres mesures de ce type ont été introduites dans des pays, voilà, comme la Russie, l'Égypte et le Nicaragua. Bien que cette dernière décision du gouvernement israélien s'inscrive dans une tendance alarmante, conçue pour tenter d'arrêter le travail des organisations de défense des droits humains et des défenseurs...
Défenseurs des droits humains.
Oui, d'accord. Le moment et la méthode de la désignation suggèrent qu'il s'agit également d'un effort pour légitimer la surveillance et l'infiltration des appareils des défenseurs des droits humains palestiniens utilisant le logiciel espion Pegasus, comme cela a été découvert par une enquête médico-légale de Frontline Defenders, c'est cette ONG qui a découvert ça. Le 16 octobre 2021, Frontline Defenders a été contacté par ALAC, une organisation de défense des droits humains en Palestine, au sujet de l'appareil d'un membre du personnel basé à Jérusalem et d'une possible infection par un logiciel espion. Frontline Defenders a immédiatement mené une enquête technique et a découvert que l'appareil avait été infecté en juillet 2020 par des logiciels espions vendus par le groupe israélien NSO. Donc, Frontline Defenders a commencé à enquêter sur d'autres appareils appartenant à des membres des 6 organisations de la société civile palestinienne désignées et a découvert que 5 appareils supplémentaires avaient été piratés par le même logiciel espion. Donc, Frontline Defenders a partagé les données recueillies à partir des téléphones avec Citizen Lab and Security Lab Amnesty International pour un examen indépendant réalisé par des pairs. Les deux ont confirmé avec une grande confiance la conclusion de Frontline selon laquelle les téléphones avaient été piratés par Pegasus.
Et parmi les téléphones qui avaient été piratés, donc il y a celui de Salah Hamouri. Salah Hamouri, qui est donc un avocat franco-palestinien, marié avec une Française qu'il n'a pas vue depuis pas mal de temps parce qu'Israël lui interdit d'entrer chez eux. La dernière fois qu'elle y est allée, elle s'est fait retenir pendant 2 ou 3 jours à l'aéroport, puis elle a été expulsée sans avoir pu sortir de l'aéroport. Salah Hamouri a été emprisonné plusieurs fois, la première fois à partir de 16 ans, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, il est menacé, enfin, il est jérusalémite, donc il est résident de Jérusalem, et Israël lui a retiré son droit de rester à Jérusalem. Donc, en fait, ils peuvent l'expulser à tout moment. Voilà. Et aujourd'hui, il y a plusieurs appels qui ont été envoyés à Macron et à Jean-Yves Le Drian pour leur dire, voilà, il faut quand même que vous souteniez, c'est un franco-palestinien. Il ne se gêne pas quand il y a des franco-israéliens pour les soutenir. Donc là, ça serait quand même bien qu'ils en fassent un peu. Et en fait, il n'y a pas de réaction. Ils disent, oui, oui, on s'en occupe, mais par derrière, on ne voit pas grand-chose se faire.
Oui, c'est toujours pareil. C'est parce que quand c'est des questions au gouvernement, comme ils ont la question avant la réponse, voilà. Évidemment, ils disent, oui, oui, on s'en occupe, on est sur le coup comme des malades. Or, les questions au gouvernement ne devraient pas être communiquées au gouvernement avant.
Oui. Puis surtout, voilà. Il devrait y avoir un suivi pour vérifier que... Sauf que, bon, voilà, c'est comme ça. Peut-être un jour, ça changera. Autre article d'Agence Média Palestine qui dit que l'UE permet l'attaque des groupes palestiniens par Israël. Donc elle parle, en fait, des groupes palestiniens de défense des droits humains, dont il a été question plusieurs fois. Et la qualification par Israël d'organisation terroriste des 6 groupes palestiniens a suscité une réponse immédiate et forte de la part de tous les défenseurs des droits humains. Réactions qui ont continué à se déverser pour condamner cette mesure comme acte de lâcheté caractéristique des régimes répressifs et autoritaires. Donc, appel a été fait à la communauté internationale pour qu'elle s'oppose à cette décision. Cette classification est une attaque frontale contre le mouvement palestinien de défense des droits humains. Et en fait, cette qualification de terrorisme va interdire leur travail en Israël et en Palestine. Israël a la possibilité, avec cette qualification, d'arrêter leur personnel, fermer leurs bureaux, saisir leurs biens, etc. Et en fait, cette action d'Israël, dans au moins un cas où l'on en est sûr, elle a été engagée en guise de représailles parce qu'une de ces ONG avait coopéré avec une entité de l'ONU. Donc si vous coopérez avec l'ONU, c'est que vous êtes un terroriste. Hein. Enfin, voilà, donc c'est... Et d'autres organisations avaient coopéré aussi avec la Cour pénale internationale qui enquête aujourd'hui sur les crimes de guerre en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Il faut savoir que la Cour pénale internationale, elle l'enquête tout azimut. Elle ne se contente pas d'enquêter sur les crimes qu'a commis Israël à Gaza, par exemple, mais elle va enquêter aussi sur les crimes que le Hamas a commis à Gaza. Donc...
Oui, mais quand même, il y a quand même un problème.
C'est pas le même niveau, mais... Ça, voilà.
Non, mais le problème, c'est aussi que Israël dit, mais nous n'avons jamais reconnu la Cour pénale internationale. Oui. Donc ça ne nous concerne pas. Mais, les Américains, pareil. Oui. Les Américains, j'imagine que si on fait le tour d'Afghanistan et d'Irak, on voit des crimes de guerre. Même la France, dans le Sahel, peut être accusée de crimes de guerre quand elle décanille une assemblée qui est un mariage, oui. Alors qu'elle jure, c'est grand Dieu, qu'elle a tiré sur des terroristes. Donc s'il suffit que le pays reconnaisse la Cour qui risque de le juger, on n'est pas sorti de l'auberge.
Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, la Cour pénale internationale, elle s'est donné la possibilité de juger tout ce qu'on lui soumet. Le seul cas où elle va pas enquêter, c'est dans le cas où le pays concerné met en place lui-même une enquête. Donc c'est quand même un peu différent. Et en fait, sur certains trucs, Israël, justement, mène des enquêtes sur certaines exactions de l'armée, sachant que, bon, ils vont pas trouver de... Ils vont dire, oui, il n'y a pas eu de problème. C'est arrivé encore dernièrement avec quelqu'un qui s'est fait tuer par l'armée. Un gamin qui s'est fait tuer par l'armée, qui s'est pris une balle dans la tête. Hein. En fait, l'armée n'est pas responsable. Et donc, c'est ce qu'a dit Israël. Mais comme ils ont fait une enquête, du coup, la Cour pénale ne peut pas juger au moins de ce cas-là. Voilà. Mais bon, si...
Donc, on peut imaginer qu'ils feront des enquêtes bidons pour c'est être sûr arrivé. Qu'après, la Cour pénale internationale ne peut pas mettre son nez dans cette histoire.
Voilà. Bon. Donc, il y a des membres du Parlement européen qui ont appelé à ce qu'Israël soit tenu responsable, et notamment en suspendant les privilèges spéciaux dont il bénéficie sous l'égide de l'accord d'association UE-Israël. Donc, il y a un accord entre l'Union européenne et Israël au niveau du commerce et qu'il exempte de droits de douane, comme s'il faisait partie de l'Union européenne.
Mais oui, mais tu sais bien que c'est le poste avancé de l'Occident voilà. Au Moyen-Orient. Oui, donc, à partir de là, on a des privilèges. Voilà. Ils ont des privilèges pour le sport. Oui. Ils organisent Miss Univers, quand même.
Oui.
Tu vois, ils organisent oui. L'Eurovision.
Voilà. L'Eurovision, c'est européen, en principe. Oui, la Coupe d'Europe de foot, ils y participent.
Mais bien sûr. Mais ils ne vont pas très loin, heureusement.
Oui.
Parce que si jamais, un jour, ils remportaient une coupe quelconque, ça serait...
Ils ont remporté une fois l'Eurovision, quand même.
L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Oui. Ça sera...
Donc voilà, aujourd'hui, l'UE n'a ni critiqué ni condamné l'action d'Israël. Elle s'est contentée d'en prendre note. Oui, oui, on a noté, on réfléchit à ce qu'on va
oui,
pouvoir faire.
C'est la méthode Le Drian, ça.
Voilà. Et donc, il y a une déclaration qui a été faite, mais la partie la plus significative a été des allégations passées de mauvaise utilisation de fonds européens concernant certains de nos partenaires parmi les organisations de la société civile palestinienne. Mais ces allégations n'ont pas été étayées. Donc, formule très alambiquée, qui veulent tout et rien dire. Et en fait, l'Union européenne s'est mise en quatre pour montrer sa déférence envers Israël. Stano, qui est porte-parole là, de l'Union européenne, a dit qu'on prenait très au sérieux les accusations israéliennes et donc il se penche sur ce qui est avancé. Sachant que même l'UE reconnaît qu'il y a eu des précédentes accusations de la part d'Israël qui se sont avérées fausses. La charge de la preuve, elle devrait être du côté d'Israël avant toute investigation de l'UE. Dernier petit point, en fait, le fait que ces organisations aient été déclarées comme terroristes, ça se base en fait sur les aveux de deux personnes qui ont été torturées dans les prisons israéliennes. Et en fait, à partir des documents qui ont été passés à l'Union européenne et aux États-Unis, puisqu'en fait, l'Union européenne et les États-Unis avaient demandé à Israël de fournir des preuves, comme quoi ils étaient sûrs que c'était des organisations terroristes en lien avec le FPLP. FPLP est un parti déclaré, tous les partis sont terroristes en Israël, palestiniens donc. Et donc voilà, du coup, ils sont en lien avec le FPLP, donc ce sont des terroristes. Et donc.
Le FPLP existe encore, mais sur le papier, j'imagine.
Non, parce qu'il y a par exemple Khalida Jarrah, qui est une députée palestinienne, et elle est membre du FPLP. Donc il a toujours quand même
une existence.
Alors je ne sais pas s'il a beaucoup
d'actions. Parce que dans les années 70, voilà. C'était quand même
oui.
un bras armé de la Palestine.
Ouais. Donc les aveux des deux hommes qui sont toujours emprisonnés par Israël, en fait, ces deux hommes ne sont même pas familiers du fonctionnement des ONG qu'ils ont été contraints d'incriminer. Donc, en fait, c'est une manipulation totale par Israël de la possibilité, enfin, d'avoir déclaré ces ONG comme des organisations terroristes. Alors, on a parlé... on va passer une petite musique, là, peut-être. On va passer... Sogol Mirzaye de Didar. Donc c'est un extrait du concert Prix Icar, session du 1er mars 2021, enregistré au carreau du temple à Paris, l'ensemble Chaque âme. On va continuer avec un blog de Mediapart, blog de Salah Hamouri, dont j'en ai parlé tout à l'heure. C'est cet avocat franco-palestinien qui a été plusieurs fois arrêté et qui est maintenant menacé d'expulsion par Israël de la ville où il a toujours vécu. Donc il a écrit un blog dont Bernard va nous parler.
Donc je vais vous lire ce qu'a écrit Salah Hamouri à ce sujet. J'avais 16 ans lorsque les autorités israéliennes m'ont emprisonné pour la première fois. Ce n'était que le début d'un long chemin tracé par une occupation militaire qui, en me condamnant sans preuve, a jeté l'opprobre sur moi. Du mur d'apartheid jusqu'au logiciel espion en passant par la criminalisation des ONG, Israël exporte son modèle autoritaire testé sur nous. Cette impunité doit cesser. En 2001, les autorités israéliennes m'ont arrêté pour la première fois et emprisonné pendant près de 6 mois. Sans preuve, j'avais 16 ans. Je ne savais pas, alors, que c'était le début d'un harcèlement d'État, un long chemin parsemé d'épreuves douloureuses, tracé par une occupation militaire qui, en me condamnant sans preuve, a jeté l'opprobre sur moi. Dès ce moment, par le simple fait d'avoir été arrêté, et de m'exprimer pour mes droits, j'ai été considéré comme suspect, sans jamais pouvoir prouver mon innocence. En 2004, j'ai été de nouveau arrêté. Le ministère de la Défense de l'époque a fait de moi le plus jeune détenu administratif de Jérusalem. La détention administrative est une procédure arbitraire, prise sur ordre militaire et sans mise en accusation, qui peut être renouvelée pendant des années et utilisée comme un instrument de contrôle massif. Plus de 60% des hommes palestiniens passent par les geôles israéliennes. En 2005, j'ai été encore arrêté et cette fois maintenu en prison. J'avais 20 ans. Accusé d'avoir fomenté un projet d'attentat, le tribunal militaire qui m'a jugé n'a jamais produit de preuves que j'aurais pu contester. Cette incarcération fut un tournant décisif dans mon parcours. La prison, que j'ai connue si jeune, m'a fait grandir trop tôt et durablement marqué. Condamné sans preuve, j'ai dû faire en 2008 le choix le plus difficile de ma vie, être déporté en France pour 15 ans et prendre le risque de ne jamais pouvoir revenir sur la terre qui m'a vu naître, ou négocier une procédure de marchandage en plaidant coupable. J'ai choisi la deuxième option, qui m'a imposé 7 ans d'emprisonnement. Non parce que j'aime être enfermé entre quatre murs, mais j'ai compris que notre combat se fait également en restant présent sur notre terre. En 2011, à ma sortie de prison, j'ai décidé d'étudier le droit et devenir avocat. Car même si on ne peut pas obtenir justice par les tribunaux israéliens, j'ai compris que la cause des prisonniers politiques palestiniens doit être défendue partout dans le monde et avant tout pour mes amis restés en prison. Le harcèlement d'État a continué. En 2016, les autorités israéliennes ont expulsé ma femme, Elsa, citoyenne française, alors enceinte de 7 mois, et l'ont interdite de territoire. Ma famille est utilisée comme un moyen de pression inhumain. Aujourd'hui encore, je suis contraint de vivre loin de ma femme et de mes deux jeunes enfants. En 2017, j'ai à nouveau été placé en détention administrative, toujours sans preuve. J'ai été accusé d'appartenir au FPLP, une organisation politique d'extrême gauche considérée comme terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Je ne suis sorti qu'au bout de 13 mois en 2018. Devenu avocat pour Adamir, une ONG palestinienne de défense des prisonniers, j'ai été à nouveau arrêté un mois plus tard alors que j'allais me faire tester au coronavirus. Le 18 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur m'a notifié mon expulsion et le retrait pur et simple de ma carte d'identité de Jérusalemite, signifiant ainsi ma possible déportation à tout moment. Et ceci en utilisant de nouveau des méthodes de criminalisation dictatoriale, de violation et d'allégeance à l'État d'Israël. Tous les Palestiniens de Jérusalem ne sommes considérés que comme des étrangers dans notre propre ville, annexés, résidents entre guillemets et sans citoyenneté. De la construction du mur aux lois racistes qui discriminent le droit à la propriété ou à la construction, aux populations non juives, nous, mes amis de l'autre côté du mur, à Sheikh Jarrah et Silwan, luttons contre des plans d'expulsion massive. Le lendemain, 19 octobre, les autorités israéliennes ont criminalisé 6 organisations de la société civile palestinienne, dont Adamer, en les classifiant comme groupes terroristes. Après plusieurs années de campagnes de harcèlement et diffamation internationale, en vain contre ces organisations. Quand on demande les preuves, les juges rétorquent « secret défense ». La semaine d'avant, plusieurs membres de ces organisations, moi y compris, avions fait analyser nos téléphones, ils avaient été piratés par le logiciel espion Pegasus, développé par la compagnie israélienne NSO. Ce logiciel a été utilisé pour surveiller, parfois, menant à leur mort, des opposants, des journalistes ou des activistes des droits humains, comme Israël le fait tous les jours, depuis toujours. Le harcèlement d'État mené aujourd'hui contre les organisations palestiniennes, mes camarades défenseurs des droits et moi, n'est que la suite de politiques d'un régime qui tente d'écraser à tout prix la volonté de liberté de notre peuple et toute résistance au régime colonial et d'apartheid mis en place depuis 1948, qui en attendant avance la colonisation sans relâche, que ce soit Ariel Sharon, Ehud Barak, Benjamin Netanyahu ou Yair Lapid, aujourd'hui, il y a un consensus pour mettre en œuvre le mythe raciste développé par le mouvement sioniste, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Du mur d'apartheid jusqu'au drone, en passant par des jolis ciels, espions et la reconnaissance faciale, le régime israélien contrôle le moindre fait et geste. Ce modèle d'autoritarisme sécuritaire testé sur nous, les Palestiniens, de manière massive, est ensuite exporté, y compris en France, et promu comme une avant-garde plutôt qu'un sérieux danger pour tout État de droit portant des valeurs démocratiques. Aujourd'hui considéré comme suspect, coupable et criminel, privé de mes droits et de la capacité de me défendre, je me sens cerné et ne sais pas de quoi demain sera fait. En attendant, l'Union européenne, les pays arabes, l'Angleterre et la France continuent d'accueillir les gouvernements israéliens à bras ouverts et signent divers accords de coopération militaire et technologique. Tant que la France et les autres membres de la communauté internationale perpétueront l'impunité israélienne et le mythe qu'Israël partage nos valeurs, notre vie continuera d'être une épreuve continuelle où nous ne pourrons construire un futur meilleur. Voilà ce que dit Salah Hamouri.
Et là, dans ce qu'il dit, tout est dit. On retrouve en fait tous les problèmes des Palestiniens, la prison, la surveillance, etc.
Oui, parce que je ne sais plus le nombre qu'a cité la table d'Allah, mais le nombre d'adultes qui ont fréquenté la prison en étant palestiniens, oui.
C'est 40% de la population, à peu près.
Voilà, c'est presque un Palestinien sur deux.
En parlant des hommes, hein, surtout les hommes. Ouais. Parce qu'il y a peu de femmes qui sont enfin, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui sont emprisonnés. Mais justement, le mois dernier est paru un document de la Commission des affaires des détenus et des ex-détenus, qui donne des informations statistiques sur les prisons israéliennes. Quand je dis prison israélienne, il s'agit vraiment de prisons en Israël. Il n'y en a qu'une qui reste en Cisjordanie. La Cisjordanie est un territoire occupé par Israël. Israël, quand ils arrêtent des Palestiniens, devrait, pour respecter le droit international...
Les accords de Genève, ils devraient être emprisonnés.
En Cisjordanie, alors qu'ils sont transférés en Israël.
Donc c'est une double violation.
Voilà. Et donc, au cours des 50 ans, 50 et quelques années passées, les gouvernements d'occupation israélienne et leurs forces militaires ont procédé à près d'un million d'arrestations contre des Palestiniens. Un million. Ils ciblent tous les segments de société, y compris les enfants, femmes, jeunes, âgés, militants des médias, etc. En fait, cette commission des affaires des détenus et ex-détenus demande simplement la justice internationale. Alors, aujourd'hui, ce sont des données à jour de cette année, 4600 personnes sont emprisonnées dans les geôles d'occupation israélienne, sachant que ce nombre est monté au moment des intifadas jusqu'à plus de 13 000, 14 000. Donc aujourd'hui, il y a 500 détenus administratifs. On l'a vu, c'est des gens qui sont emprisonnés sans jugement, sans procès, sans rien, sur la base de faits qui ne sont même pas publics, qui ne peuvent même pas se défendre.
C'est des prisonniers politiques, alors.
Voilà.
Comme les autres aussi sont des prisonniers politiques.
Donc il y a 35 femmes, 200 enfants, donc de mineurs de moins de 18 ans, hein, c'est tel que c'est défini dans le droit international. Il y a 543 détenus condamnés à perpétuité. Il y a 6 détenus qui font la grève de la faim en ce moment. Et puis, il y a 550 captifs malades dans les prisons israéliennes qui ont besoin de soins médicaux intensifs. Il y a 10 détenus qui ont le cancer. Et parmi les cas les plus graves et difficiles, il y a Mohamed Barash, qui est amputé des jambes. Aujourd'hui, il est condamné à perpétuité. Esra Jabis, qui souffre de graves brûlures. Elle est amputée des doigts aux deux mains. Alors, cette dame, donc, en fait, elle a été condamnée à plusieurs années de prison pour terrorisme. En fait, elle était arrivée à un poste de contrôle israélien et elle a perdu le contrôle de sa voiture. Et les Israéliens, l'armée israélienne a tiré dessus, sa voiture s'est enflammée et elle a été brûlée, etc. Et elle est en prison. Donc voilà, je vous recommande, si vous avez la possibilité, de lire le livre de Stéphanie Lat Abdallah.
Et c'est 450 pages.
450 pages. La toile carcérale, franchement, ça donne une vision de la société palestinienne qui est vraiment enfermée, emprisonnée dans cette toile. À tout moment, même en pleine nuit, l'armée peut rentrer chez les Palestiniens. Après avoir cassé la porte, a fait lever tout le monde, y compris les enfants. Il bande les yeux d'un enfant et puis il l'emmène en pleine nuit. Voilà. Dernièrement, il y en a encore deux qui ont été emmenés dans une colonie israélienne. Ils ont été laissés pendant 24 heures dans le froid, sans possibilité d'aller aux toilettes, etc. Donc voilà ce que c'est l'armée la plus morale du monde, comme le dit Israël. Je vous laisse juge et je vous dis à la prochaine fois.
Merci Sidi. On se dit au revoir et on remercie Sidi qui est aux manettes. Bintish Shalabi.